Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour, c'est Clémentine, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Et justement, l'émission fait son chemin, puisqu'aujourd'hui, c'est le 12e épisode. Depuis plusieurs semaines, des êtres créateurs se confient sur leur processus. C'est un recueil de paroles libres. Et peu importe ce qui sort, ça sort à l'instant où ça sort, de la manière dont ça sort. Et du coup, rien que ça, ça existe. Notre parole existe, comme ça. Parce qu'on lui laisse une place. Le raconteur racontera bien ce qu'il a envie de raconter, et l'auditeur écoutera bien ce qu'il a envie d'écouter. Alors, racontons-nous encore. Je me trouve en compagnie de Laura Soulage et Cécile Hamès. Laura est photographe et a le goût de l'écriture et de la littérature. Cécile, de son nom de scène Silex, est musicienne, comédienne jeune public, auteur, compositrice, interprète et donne des ateliers d'écriture slam. Bonjour Laura et Cécile.
Bonjour. Bonjour Clémentine.
Alors pour commencer, on revient toujours aux origines et à la base et j'aimerais savoir quand est-ce que la création entre dans vos vies.
Wouh. Alors, retour vers le futur. Oui, oui, oui. Alors là, un des souvenirs qui me vient, c'est que quand j'ai eu mon premier radiocassette, quand j'étais gamine, j'ai commencé déjà à enregistrer des bruitages. J'appelle pas ça de la création, mais en tout cas, c'était déjà de la recherche. Et voilà, là, c'est le souvenir qui me vient. Je sais pas, Laura, pour toi.
Alors moi, je dirais que c'était vers mes 7-8 ans. J'avais créé tout un monde imaginaire. Avec plein de personnages, plein de villes, etc. Et en fait, j'avais fait plein de carnets où j'avais raconté toute l'histoire des personnages. J'avais dessiné tous les plans de mes villes. J'avais fait des petites BD, j'avais fait des textes, j'avais écrit des choses. Et bon, c'était à un niveau 7 ans, quoi, 7-8 ans. Mais j'avais fait déjà tout ça à cet âge-là. J'avais dessiné, c'était
marrant.
Et
tu les as conservés ?
Oui, je les ai conservés, wow. Oui, oui. C'est ma mère qui les a et on les a, voilà, je les ai toujours.
Super. Ouais. Et toi, Cécile, quand tu enregistrais des bruits, c'était dans ton environnement, peu importe, oui. Tu avais des bruits en particulier qui te faisaient kiffer d'enregistrer, c'était quoi? La nature, c'est toujours la ville?
Non, ça a commencé vraiment dans ma chambre, dans les toilettes, dans la salle de bain. Je sais pas, ça me provoquait une émotion dingue de faire un son et puis de l'enregistrer, de pouvoir le réécouter après. Et après, oui, petit à petit, en grandissant, ça a été prendre des bruits à l'extérieur et imaginer en faire quelque chose, ouais.
Yes. Mm. Et du coup, est-ce que tu as pu en faire quelque chose à un moment donné?
Oui, ça a été long comme processus, parce qu'il y a eu plusieurs chemins de traverse, bien sûr, et jusqu'à arriver au dernier projet que j'ai mis en place, pendant des années quand même, que tu as vu à la Nuit du Slam à Gignac, voilà, Silex Project. Ça, c'est mon projet, voilà, à moi toute seule. Sinon, j'ai été beaucoup, beaucoup au service d'autres projets, d'autres créations. Et puis, il est venu le moment où c'était la mienne.
Et quelle est la différence à l'intérieur de toi quand tu te mets au service de créations d'autres personnes et que tu interprètes, etc.? Et quelle est la bascule ou quelle est la différence intérieure quand c'est pour toi? Est-ce qu'il se passe autre chose?
Oui, il se passe autre chose. C'est une plus grande liberté, enfin une liberté absolue même, de faire comme tu disais tout à l'heure, ce qui sort au moment où ça sort, cette espèce de geste premier qui va s'inscrire. Et après, une liberté dans enfin que j'ai prise en tout cas en musique, de ne pas réfléchir ni à la structure ni à voilà, de plus faire intervenir trop le mental, de ne pas rechercher une sophistication non plus, et faire voilà absolument ce que je veux quand je veux.
Et c'est peut-être aussi sortir un peu du jugement.
Oui, complètement.
À un endroit, ouais.
Oui, le jugement, le regard des autres, et puis surtout celui qu'on a envers soi-même.
Yes. Et toi, Laura, est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que parfois tu t'es mis au service de projets des autres? Et est-ce qu'il y a une nuance quand c'est tes projets à toi, personnels, tes créations? Et comment tu navigues entre les deux?
Alors oui, moi ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'effectivement sur mes projets à moi, je vais avoir tendance déjà à effectivement mettre mes photographies au service du message que j'ai envie de communiquer, et du coup j'essaye vraiment d'orienter chaque petit détail de mes créations vers ce message-là, en fait. Alors que c'est vrai que quand je crée pour quelqu'un d'autre, c'est sûr que j'ai ma patte et que je vais proposer moi-même, je vais être assez proactive et je vais venir proposer un petit peu mes idées sur l'instant. Mais je finis toujours par aller dans le sillage de ce qui m'est demandé, forcément. Par contre, oui, pour mes projets personnels, que malheureusement, souvent, j'ai pas trop le temps de réaliser parce qu'il y a beaucoup de choses à côté, évidemment, mais j'essaye vraiment de me libérer de tout ça et de partir plus dans un sens qui me représente moi et qui est plus dans lequel je me sens plus en harmonie, on va dire, avec ma personnalité, ce que j'ai envie de faire passer, ouais.
Et comment on se détache comme ça du jugement, et comment on se convoque intimement? C'est quand même une grande trajectoire, tout ça, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez eu des moments où vous êtes dit stop, ok, je peux me plonger à fond dans ce que je suis moi et assumer, et est-ce que ça s'assume? Est-ce qu'on a toujours des doutes? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Des doutes, je pense qu'on en a toujours et qu'on en aura toujours, et heureusement, parce que ça permet de se remettre en question et c'est assez sain. Après, pour moi, la bascule, donc on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur n'est pas invité à cette table aujourd'hui.
Il était invité au café juste avant.
Au café juste avant, mais il est resté
là-bas.
Je le vois un petit peu, moi, quand même.
Oui, donc celui-là, on en parle souvent entre artistes ou entre créateurs. C'est long, enfin pour moi ça a été très long de me débarrasser de lui. Et en fait, je pense que j'ai trouvé le déclic, enfin la bascule, quand j'ai compris que ce que je voulais faire, en fait, c'était pas un étalage de ma vie, de mon ego, de machin, tout ça. C'était plutôt un témoignage. Un témoignage de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, et qui forcément résonne avec ce que traversent les autres, parce qu'on est, tout est relié, et on est tous sur le même bateau. Et j'ai senti ça et j'ai compris ça parce que il y a tout au long de ma vie des artistes qui m'ont sauvé la vie, en fait, en parlant de choses dans lesquelles j'ai pu m'identifier, où j'ai pu me sentir moins seule. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, faire ça, et si ça peut résonner avec, même si c'est juste quelques personnes, que ça peut inspirer, apaiser, donner envie, je sais pas, c'est mission réussie.
Mmh. Le fait d'entrer en résonance quelque part,
ouais.
Ça nous légitime, peut-être. Toi, Laura, tu as eu des soucis avec le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu veux qu'on lui casse la gueule?
Écoute, je crois qu'on va le remettre dehors, on va le faire sortir de la salle. Non, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, je suis dans le juridique, donc aucun rapport avec la photographie. Et au départ, quand justement j'ai voulu me lancer en tant qu'artiste photographe, j'avais effectivement des choses, des messages, des idées que j'avais envie de faire passer de manière plus artistique. Et progressivement, je me suis lancée, mais à la base, c'était pas professionnel, c'était vraiment pour moi. Et c'est vrai que le jour où j'ai décidé d'en faire ma profession, en sachant que à cette époque-là, je pense plus du tout pareil aujourd'hui, mais pour moi, à cette époque-là, mettre un terme comme photographe sur une profession nécessitait d'avoir fait des études dans le domaine, puisque j'avais fait 8 ans de droit. Donc forcément, dans ma tête, c'était un peu ça. Et progressivement, c'est vrai que je me suis détachée de ça et j'ai réussi à faire passer plus mes idées, à assumer le fait que oui, j'étais photographe. On parlait de se détacher du jugement, etc. Moi, je pense que ça passe déjà à travers notre propre personne. Quand nous, on a réussi à se détacher, effectivement, notre art prend une dimension différente. Et c'est vrai qu'à partir du moment où, en tant que personne, on décide que ce que pensent les autres, on s'en fiche quelque part, notre art prend une autre dimension. Et c'est un cheminement, je trouve, qui n'est pas évident à atteindre en tant que personne et en tant qu'artiste aussi. Et comme tu disais, on a tous plus ou moins le même cerveau. Si cette problématique s'est présentée à moi, c'est qu'elle s'est présentée à d'autres personnes et ça me donne le droit, entre guillemets, d'en parler. Et si je peux aider une seule personne à travers mon message, pour moi déjà, le pari est gagné.
Mmh. Voilà. Carrément. Et en même temps, c'est intéressant parce que parfois, on crée, il y a un public en face, que ce soit dans le spectacle vivant, il y a le public qui est là face à la scène, admettons, ou sur les photos, il y a un regard aussi du spectateur sur les photos. Et ce public va aussi parfois nous faire des retours. Mmh. Et ça peut être très constructif, mais... Il y a comme une nuance à trouver entre j'assume ce que je fais et je le fais comme ça et j'essaye de me détacher déjà de mon propre jugement et du jugement extérieur, en même temps tout en étant alerte à d'éventuels retours. Je sais pas comment oui. La frontière est parfois mince. Enfin
oui, c'est compliqué. Au fur et à mesure de l'expérience, on apprend, c'est toujours pareil, hein, on roule notre bosse et on réagit de façon différente au fur et à mesure du temps. Moi, je me souviens, dans mes débuts, c'était très difficile, les critiques, les points de vue, tout ça, j'entrais en confrontation avec. Et au fur et à mesure du temps, je m'en suis un petit peu détachée et aujourd'hui... J'écoute, je prends, ça me questionne et donc je vais pouvoir me positionner ou me repositionner par rapport à ce qu'on me dit. Mais ça ne va plus remettre en question, tout remettre en question.
Oui, par rapport à ce que fondamentalement je fais. Oui, voilà. Et tout.
ouais. Voilà.
Oui, il y a une posture qui s'affirme ouais. au fur et à mesure. Mmh. Ça te parle, Laura, toi ?
Alors oui, après, je trouve qu'il y a, y a critique et critique, et toute critique est bonne à prendre, puisque c'est ce qui nous permet d'avancer. Je pense qu'on apprend énormément aussi des autres, et surtout dans la photo, où moi, je photographie beaucoup de modèles, de personnes, et j'ai souvent une équipe, du maquillage, par exemple, ou quoi. Et donc, j'essaye déjà, de base, au moment du processus créatif, de prendre en compte déjà tous les avis et ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait être apporté par les autres, du moins. Après, moi, souvent, sur mes projets personnels, c'est des projets qui vont me parler à moi et je serai, entre guillemets, directrice artistique sur le projet. Donc, en général, chaque petit point, chaque petit détail, je l'ai pensé et je sais pourquoi je l'ai amené. Donc, en fait, selon la critique que j'ai, j'essaye d'être à même de dire, oui, mais là, en fait, il a fallu trancher, il a fallu prendre position. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix, parce que derrière, il y a telle ou telle chose, j'avais telle contrainte, mais de par ma propre vision de la chose, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais après, voilà, je trouve que chaque critique est bonne à prendre et... Il faut juste savoir se positionner, en fait, ouais, et faire des choix, je trouve aussi.
Oui, et puis on peut défendre sa démarche artistique, bien sûr.
C'est ça. Mmh.
Ouais. Bien sûr.
Oui. Sans remettre en question tout son projet systématiquement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au départ, on a tendance à faire ça, oui.
Oui, je me rappelle d'une critique que j'avais eue où un érudit de jazz m'avait dit tes chansons, elles se ressemblent, les grilles sont pas intéressantes. Donc voilà, c'était sur le coup, ça fait un petit peu mal, hein, comme un petit coup comme ça. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit oui, mais il a raison. Mmh. Et en fait, ça a permis de me positionner en me disant effectivement, je ne fais pas du jazz, j'ai décidé que ce serait pas cette musique-là que je ferais dans ce projet-là. Et effectivement, j'ai des chansons qui peuvent tourner sur trois accords, sur trois notes de basse. Et ben, ça me plaît comme ça.
Ouais. Voilà. Super, bah oui, et puis après, on a aussi le droit des fois d'aller piocher. Moi, je veux bien piocher un peu un truc jazzy, il y a les puristes, évidemment, où ça doit être intact, etc. Mais on n'est pas obligé de rester dans une case, dans un cadre. Forme de liberté.
Je dirais qu'il y a aussi, par exemple, en photographie, il y a un côté très technique. Je vais recevoir des critiques techniques de la part d'autres photographes, par exemple, que j'entends très volontiers. Mais il ne faut jamais non plus mettre de côté les avis qu'on pourrait avoir de gens qui ne sont pas photographes et qui vont plus être dans l'émotion et dans le ressenti. Et je trouve que ces avis-là sont très importants parce que souvent, c'est eux qui vont donner le petit virage à notre projet et qui vont faire que ça passe... le petit plus en fait qui fait que le projet devient un peu plus extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire quoi. Qu'on aurait peut-être vu un milliard de fois, grâce à ce petit avis on va réussir à aller plus loin et ça va nous donner ce petit virage justement qui va aider. Donc tous les avis sont bons à prendre pour moi.
Oui, et puis des personnes non spécialistes entre guillemets,
oui,
qui viendrait donner un avis ou moi ça m'a soulevé telle émotion, ça me fait penser à telle chose. Oui. Et je trouve que ça peut aussi un peu défragmenter, mettre l'acte artistique d'un point de vue un peu plus horizontal. Sortir peut-être un peu de l'art, ça doit être comme ci, comme ça, de l'élite, peut-être ça, chacun a le droit de donner son avis finalement.
Oui.
Ouais, ça m'a... J'aime bien l'horizontal, moi. C'est bien, ça défragmente. Et sinon, dans vos manières de créer, que ce soit chez vous, à l'extérieur, est-ce qu'il y a des espaces appropriés où vous vous sentez à même de le faire?
Moi, je suis très à l'aise dans mon salon.
Ouais.
Seule.
Seule?
Oui.
Ok.
Voilà. Seule, après, j'ai... La voiture, je fais beaucoup de voitures et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui me viennent en voiture.
Yes.
Et après, pour vraiment me plonger, être en immersion, c'est... Oui, il faut que je sois dans ma grotte et seule et avoir du temps devant moi. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas évident à avoir. Mais, du temps.
Oui.
Voilà,
oui.
Parce que c'est pas... Voilà, si j'ai 2 heures devant moi, je peux pas me plonger dans un projet, quoi. Donc, il faut aménager. Aménager du temps, mais c'est vrai que pour moi, c'est ma grotte.
Ouais, super. Et toi?
Alors moi, je vais te rejoindre là-dessus aussi. J'ai besoin d'énormément de temps, de calme, parfois de musique aussi, ça peut aider. Et je vais passer peut-être 2-3 heures, mais dans ma tête, avec moi-même. J'écris pas, je réfléchis, j'intellectualise beaucoup, en fait. Par contre, à partir du moment où dans ma tête, les idées sont posées, je mets tout sur papier. Alors toi, c'est ta voiture. Moi, souvent, c'est très cliché, mais c'est sous la douche. Je me douche et je me dis, ah, mais voilà, c'est ça qui manquait à mon projet. Et souvent, ça me fait le petit déclic. Et là, ça y est, j'ai fini ma douche, je vais dans mon salon, je rédige, je me fais des petits paragraphes, des choses, des petits dessins, Et je fais tout mon mood board qui ensuite sera forcément influencé par les gens avec qui je vais travailler, parce que je ne photographie pas des paysages. Donc voilà. Mais en tout cas, souvent, je projette tout comme ça, voire même j'écris un texte sur ma série pour donner une certaine harmonie, etc. Mais j'ai besoin aussi. Et pareil, comme tu disais, si j'ai 2 heures devant moi, je m'y mets même pas. Ou alors, je vais y penser. En fait, j'y pense toute la journée, même en allant faire mes courses. C'est dans ma tête, j'y pense. Et il va y avoir ce moment, la douche, qui va me permettre de tout mettre sur papier.
Oui, c'est toujours comme un petit truc posé sur l'épaule.
C'est ça.
En filigrane comme ça. Et il y a... Voilà, c'est en gestation.
Ah, c'est oui.
Ouais, c'est une gestation.
C'est obsessionnel. Ouais. Moi, je trouve qu'on a ce projet, on veut passer ce message. Et parfois, le dernier projet sur lequel je travaille, ça a été à la salle de sport, une dernière réflexion qui m'a fait aller, ça y est. Et j'ai tout mis sur papier.
Et t'étais en train de faire du rameur, genre.
Exactement. J'étais en train de faire du tirage horizontal.
Mais voilà, quelqu'un a vu ma story en me disant oui, là, je comprends pas. Machin. Et je me suis dit, allez, la nouvelle réflexion de trop là. Et je suis rentrée, j'ai travaillé sur une série. À partir de là, ça a été mon petit déclic pour enchaîner sur ça. Voilà.
C'est super intéressant parce que du coup, c'est dans des actes hyper quotidiens.
Oui.
Je prends ma bagnole, je suis sous la douche. Et c'est à travers des actes quotidiens qu'on arrive à s'extraire du quotidien en même temps parce que. Quand on fait un projet, c'est un peu une extraction aussi du métro boulot dodo. Mmh. Ça fait voyager, ça nous sort de nos zones habituelles et tout. Et il y a quand même ce cœur du paradoxe là entre s'extraire du quotidien, mais c'est dans notre quotidien que ça nous que ça vient nous chercher. Mmh. Moi, je trouve ça fabuleux.
Oui, c'est vrai.
Mais je pense que c'est dans des lieux où on est dans une sorte de méditation un peu. Enfin, à la salle de sport, on est concentré sur ce qu'on fait, on est dans notre tête, mine de rien, on est entre nous et nous, la douche aussi, la voiture aussi. Enfin, pour moi, c'est des moments où on est...
des états modifiés de conscience dont on ne se rend pas compte.
On est confronté à nous-mêmes dans une activité qui finalement est banale, je trouve. Enfin, c'est... Ouais.
Yes.
Et c'est ce qui est bon, justement, d'avoir, comme tu dis, cette extraction au beau milieu. C'est la verticalité au milieu de l'horizontalité.
Exactement.
C'est le point de croix.
Exactement. Alors, les différents plans énergétiques du corps et de l'esprit. Très chouette ces réflexions, ça me fait penser à plein de choses, ça me ramène aussi à la nécessité de créer.
Ouais.
À quel moment ça c'est nécessaire pour vous de créer?
Je pense que c'est une nécessité d'une vie en fait. Hein. Je pense pas que je pourrais m'en passer parce que cette extraction dont tu parles, je pense en avoir besoin. Après, ça vient. Alors, c'est une nécessité ou une urgence, parfois aussi. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est vécu et qui est intense à l'intérieur et qui prend trop de place et il faut absolument lui donner une voie d'expression. Mm-hmm. Souvent, c'est ça. Pour moi, souvent, ça va être ça. Une urgence, ouais. Une urgence à exprimer, une urgence à témoigner ou à partager. Ou dans ce que je peux voir autour de moi aussi, une envie de témoigner ou de peut-être de supporter dans le sens d'aider ce que je vois autour et comme ou rendre hommage ou enfin des choses comme ça. Mais parce que au niveau de l'intensité du ressenti, C'est fort et ça prend trop de place.
Mmh. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est quand on a un trop-plein d'émotions. Et je sais que moi, j'ai d'émotions, mais ça pourrait être... Enfin, ça peut passer par tout type d'émotions, entre guillemets. Enfin, bon, je vais m'exprimer mieux que ça. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez pudique avec... quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas exprimer facilement mes émotions. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire par la photo, par un texte, par à l'écrit ou quelque chose comme ça. Donc, il y a ce côté-là où on se sent un peu submergé par les émotions et on a effectivement ce besoin de créer pour faire passer ce message à l'autre, à quelqu'un. Il y a aussi dans les conversations qu'on pourrait avoir avec les gens, des gens qui, par exemple, nous confient quelque chose. Et c'est eux qui aimeraient pouvoir communiquer là-dessus, mais qui n'ont pas les mots, qui n'ont pas les outils pour le faire. Mmh. Et à force qu'on m'en parle, que ça revienne, et ben je me dis, mais pourquoi en fait cette personne m'a fait assez confiance pour m'en parler? Des fois, c'est des choses qui sont très personnelles. Cette personne m'a fait suffisamment confiance. Peut-être que moi, je pourrais être ce média, en fait, canal, et puis communiquer là-dessus. Et ça parlera forcément à plein d'autres personnes. Et c'est parce que c'est un sujet qui m'a touchée et je pense qu'il touchera d'autres personnes. Et donc, je me sens un peu une obligation, en fait, quelque part, puisque moi, j'ai les moyens de le faire, bah, de communiquer pour ceux qui n'ont pas les moyens forcément de le faire. Donc, oui, c'est... Voilà, pour moi.
Ouais, oui. C'est du partage, en fait, tout le temps.
Oui, du partage, oui. Ouais.
Tout le temps. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne créez pas? Question de but en blanc comme ça. On parle de création, mais quand on ne crée pas, qu'est-ce qui se passe? Du sport?
Du sport.
T'es une mordue de sport ?
Je suis très addict au sport. Mais ouais, je pense que c'est une façon aussi d'extérioriser, quoi, d'une autre manière. Mais oui, moi, voilà. Mais comme on disait, même quand on ne crée pas, finalement, on y pense. Donc,
oui, pendant la session de rameur, là.
C'est ça, ça ne nous quitte pas trop. Je ne sais pas toi, mais...
Bah, je pense qu'il y a beaucoup de moments où je ne suis pas dans la création, où je peux être dans la répétition. Mm-hmm. En musique, on répète beaucoup. On répète beaucoup et dans les ateliers d'écriture slam que je donne, je suis au service de la création des autres. Donc, mm-hmm. moi, j'y suis pour préparer ces ateliers et pouvoir leur proposer quelque chose. Mais après, je suis plus à leur service et j'adore ça aussi. Et après, oui, c'est des moments où j'ai autant besoin d'être dans la création que de ne pas l'être, pour laisser reposer aussi et pour renouveler peut-être un certain stock de matières premières. Je sais pas.
Du coup, tu as des moments de pause ?
Oui, oui. Après, je sais pas, c'est comme tu dis, Laura, je sais pas s'ils sont vraiment vrais, ces moments de pause. Parce qu'en fait, il y a toujours des choses qui se passent et qu'on met dans nos tiroirs, dans notre besace. Et puis après, voilà, ça reste, comme je disais tout à l'heure, en état de gestation. Et il y a un moment où ça va sortir, quoi.
Ouais.
Et puis voilà, quand on est dans la vivance, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses dont on pourrait se faire messagère ou dont on a envie de témoigner, que ce soit pour soi, pour les autres. Mais finalement, c'est toujours... ouais, comme tu dis, c'est toujours une histoire de partage. En tout cas, pour toutes les deux, apparemment.
Oui. Et j'aurais aussi un autre aspect. Moi, je donne aussi des cours, des formations, etc. Et là, je ne suis pas dans la création, puisque je suis dans la transmission de connaissances, on va dire. Je leur apporte plus de la technique, on va dire, puisque c'est moi qui enseigne, voilà. Mais même là, je trouve que le fait de discuter avec les élèves, d'avoir leur vécu, leur ressenti, ça apportera par la suite potentiellement pour moi quelque chose qui orientera mes créations aussi. Donc même dans une activité de formation qui n'avait à la base absolument pas vocation à créer, où j'étais pas du tout sur mes projets, j'étais pas... même là, je trouve que il y a une dimension où quelque part ça m'apportera quelque chose pour mon...
Oui, ça vient toujours nourrir.
Ah oui, oui, totalement.
Et on apprend.
Chouette. Et si vous deviez définir très rapidement pour vous ce qu'est être un créateur, une créatrice, ce serait quoi? Vous avez 20 secondes. Non, mais première chose qui nous passe par la tête, on peut penser différemment demain aussi.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et c'est bien.
Ah oui, je pense pas que ce soit une définition qui soit totalement figée.
Ouais, pas évident. 20 secondes, en plus, il n'en reste plus que 12. je dirais, c'est peut-être saisir des choses de l'invisible à l'extérieur de soi ou à l'intérieur, et puis le faire descendre dans la matière, et ou le transformer à sa façon, à sa sauce, pour le rendre au monde d'une façon un petit peu différente.
Ouais.
Mais je peux rien dire après ça, c'était trop beau. voilà.
On garde ça.
Franchement, non, mais oui, c'est vrai
que c'était très, très beau.
C'est faire en fait de son introspection quelque chose, un produit fini finalement, oui, je trouve aussi. Ouais.
Et le partager.
Et le partager, évidemment. Parfois, non. Hein, moi, il y a des choses que je crée que je garde pour moi parce que j'ai cette peur de le rendre public, justement, parce que soit je me dis je le sens pas encore totalement abouti, soit je me dis que je pourrais faire mieux plus tard, mais je sens que c'est pas le moment parce que j'estime qu'il me manque encore une certaine expérience ou certaines connaissances pour que le projet soit réellement fini. Et donc ça dépend.
Oui, il y a des timings, timings de la vie aussi. Tout Exactement. Est bien fait au bon moment.
Des
parfois.
Fois, on sent que c'est pas le bon moment.
Ouais. Et allez, un petit mot de la fin pour conclure, si vous deviez donner un seul mot, le mot de la fin, qui représenterait votre rapport à la création, quel serait-il ?
Je ne sais pas s'il existe ce mot, la vibrance, ça n'existe pas.
On a le droit d'en inventer, la vibrance. C'est validé. Voilà. C'est validé. Et toi, Laura ?
Moi, j'aurais dit c'est l'authenticité. Parce que tant qu'on fait les choses pour nous et qu'on est authentique, le message passe, à mon avis.
Yes, merci beaucoup Cécile et Laura et un grand merci à Alice Rollet à la réalisation.
Merci Alice.
Et on se retrouve très bientôt sur les chemins de la création.
Merci Clémentine.
Merci.
Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis, il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.